Bienvenue à tous dans le forum du Studio Kalangou, une émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le thème principal du forum d'aujourd'hui est le G5 Sahel face aux défis de la sécurité et du développement dans les pays membres, opérationnalisation, limites et perspectives. Le G5 Sahel, qu'est-ce que c'est? Quel est le mandat de cette force? Avec quels moyens et quels effectifs? Quelles sont les contraintes de la pleine opérationnalisation de cette force? Pourquoi les pays du Sahel comptent nécessairement sur les financements des puissances du monde pour se protéger des forces du mal? Comment expliquer l'hésitation des populations du Sahel à collaborer avec les forces du G5 Sahel pour lutter efficacement contre le terrorisme? Quelles sont les actions de sécurité ou de développement à l'actif du G5 Sahel? Comment garantir l'efficacité et l'efficience dans l'action du G5 Sahel? Ce sont là, entre autres questions que nous nous posons et auxquelles nous souhaitons trouver des réponses au cours de cette émission. Nous recevons comme invité Dr Diko Abdourahmane, enseignant-chercheur à l'Université des Andes. Il est en ligne avec nous depuis Zander, ville située à environ 900 km de Niamey. Nous avons également en ligne Ibrahim Maïga, chercheur à l'Institut d'études de sécurité ISS, également en ligne avec nous depuis Bamako, au Mali, et Kaka Touda Mamman Goni, membre de l'association Alternative Espace Citoyen et acteur engagé sur les questions de sécurité au Niger, présent avec nous dans ce studio à la présentation Alassane Kouzi Mahamadou. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du forum du Studio Kalangou. Nous allons parler de sécurité aujourd'hui, notamment le G5 Sahel. Comme vous le savez, le G5 Sahel, c'est une organisation régionale créée en 2014 par le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Il couvre environ une superficie de 5 millions de kilomètres carrés où vivent près de 80 millions d'habitants. Les questions de sécurité et de développement sont au cœur de son champ d'action. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de demander à chacun de se présenter pour nos auditeurs en nous expliquant le contact que vous avez des questions de sécurité, notamment cette affaire de G5 Sahel. Je commencerai par vous, Ibrahim Maïga, chercheur à l'ISS depuis Mali.
Merci beaucoup. Alors, Ibrahim Maïga, chercheur à l'Institut d'études de sécurité. ISS est une structure de recherche dont le siège est en Afrique du Sud, à Pretoria, mais qui a une présence dans plusieurs pays, plusieurs régions de l'Afrique, du continent. Mm-hmm. Nous avons un bureau régional duquel je relève, qui est basé à Dakar et qui couvre l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Et le mandat de l'ISS, pour aller très vite, c'est de contribuer à l'amélioration de la sécurité humaine sur le continent, donc en faisant de la recherche, et aussi en apportant un appui technique, en faisant de la formation et du renforcement de capacité sur toutes les questions donc, de paix et de sécurité.
Alors, nous passerons à Dr Diko.
Bonjour. Merci de m'avoir donné cette opportunité. C'est Dr Diko, je suis enseignant-chercheur à l'Université des Andes. Je suis détenteur d'un PhD en sociologie des conflits et des violences, et notamment d'un master en études stratégiques sur le terrorisme. Donc, présentement, je suis enseignant-chercheur, mais de l'autre côté aussi, d'un côté, je suis un chercheur indépendant. Je travaille sur toutes les questions qui sont liées à l'extrémisme violent, au terrorisme et au processus aussi, que nous connaissons un peu partout dans le Sahel, c'est-à-dire la radicalisation débouchant sur une nouvelle forme de revendication sociale, c'est-à-dire l'usage d'une violence militante qui taraude nos sociétés et qui continue aujourd'hui à mobiliser tous les grands chercheurs de la sous-région.
D'accord. Nous revenons au studio pour donner la parole à Kaka Touda Mamman Goni.
Merci. Moi, c'est Mamman Kaka Touda. Je suis jeune juriste, activiste, défenseur des droits humains. Je suis de l'association Alternative Espace Citoyen. Comme vous le savez, l'association Alternative Espace Citoyen est une des structures, en tout cas de la société civile au Niger, qui est très engagée sur la question de la sécurité. Personnellement, sur la question, en tout cas, de l'insécurité, je suis très engagé. Je fais un travail de veille et de monitoring. Souvent, vous savez, nos États ne communiquent pas et nous avons décidé, nous, de communiquer, que ce soit les forces du mal qui font des exactions, nous essayons de relayer, que ce soit l'exploit des FDS, on les relais, il ne faut pas attendre seulement les exploits des FDS pour parler. Et juste, j'ai fini en disant que la question sécuritaire aujourd'hui est tellement importante de notre point de vue qu'il ne faut pas laisser entre les mains seulement que des États. Donc, il faut absolument qu'il y ait une vision, une lecture aussi des organisations de la société civile. C'est comme ça qu'on peut venir à bout. Certainement qu'on va revenir. Oui. Et je suis fier de voir mon ami de l'ISS, Maïga, avec qui on s'est beaucoup retrouvé dans d'autres cadres pour travailler ensemble. Je travaille beaucoup avec l'ISS aussi.
Ok, bien. C'est un plaisir aussi. Tout à l'heure, j'ai fait une brève présentation du G5 Sahel. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez peut-être envie d'ajouter en termes de complément d'information sur la création, les objectifs de cette force? Ibrahim Maïga?
Oui, alors je salue également mon collègue sur le plateau, Kaka. Peut-être en termes de complément d'information par rapport au G5, c'est une petite clarification sur ce que c'est que le G5. Parce qu'on parle souvent du G5 en termes militaires, mais le G5, ce n'est pas que la force conjointe du G5 Sahel. C'est deux choses distinctes. Vous avez le G5 Sahel qui lui-même repose sur deux piliers, la sécurité et le développement. Et le bras armé de ce G5 Sahel, c'est sa force conjointe qu'elle a mise en place et qui, normalement, doit réunir 7 bataillons faisant 5000 hommes. Mais à côté de ce bras armé, donc de cette force militaire, vous avez aussi le pilier développement. Le pilier développement, à l'heure où on se parle, le G5 Sahel a mis en place ce qu'il appelle le PIP, le programme d'investissement prioritaire. Donc quand on parle du G5, il faut avoir ces deux dimensions à l'esprit.
La dimension sécurité et la dimension développement.
Développement. C'est extrêmement important, sinon ça donne l'impression que le G5 Sahel est encore une force supplémentaire, une force de plus, voire une force de trop dans cet espace sahélien qui est déjà quand même assez chargé militairement.
Docteur Diko Abdrahman.
Donc, globalement, il faudrait admettre le principe selon lequel que nous avons l'obligation, en tant que chercheurs ou chercheuses, de travailler de manière à ce que le G5 Sahel soit véritablement ce cadre institutionnel qui lie de manière étroite le développement économique et la sécurité. Certes, c'est une vie thématique qui a été reprise par le G5 Sahel et maintenant qui est en train d'être formalisée, mais nous devrons insister sur le fait que le G5 Sahel poursuit comme objectif principal la sécurisation d'un espace, mais aussi l'encouragement, n'est-ce pas, à l'émergence, n'est-ce pas, d'un système de production économique favorable au développement. Donc voilà en fait l'objectif, si vous voulez, assigné au G5 Sahel. Mais en amont, il faudrait rappeler que le G5 Sahel a été créé d'abord pendant le quinquennat de François Hollande, parce qu'il faut bien le dire, il faut bien le préciser. Il a été créé par Jean-Yves Le Drian, qui était alors ministre de la Défense de la République française. Et l'objectif qu'il avait, c'était d'impliquer et unir la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad dans la lutte contre le djihadisme et les trafics, n'est-ce pas, de drogue et des migrants. Donc c'est pratiquement une maquette, j'allais dire, sorti du frigo, proposé aux États du Sahel, c'est-à-dire ces pays-là que je viens de citer. Mais l'idée aujourd'hui peut être encore traduite de manière abyssale par le fait que tout ce que je viens de dire peut être confirmé par l'engagement ou du moins la mobilisation des autorités françaises dans le sens de l'opérationnalisation de ce cadre institutionnel.
Nous revenons au studio, Kakatuda Mamangoni. Vous, qu'est-ce que vous avez à ajouter par rapport à cette question du G5 Sahel, notamment ses objectifs?
Merci. Mon ami Maïga a bien fait de rappeler que G5 Sahel, c'est le couple sécurité et développement. Et le grand frère chercheur Diko semble dire comme c'est une sorte de création de Français avec Jean-Yves Le Drian qu'il fait bien de rappeler. Mais c'est un débat sur ce sujet. Vous savez, je comprends en tant que chercheur, il est tout à fait normal et c'est pourquoi d'ailleurs c'est très important que les chercheurs également se mobilisent. On a l'impression que c'est la France qu'on voit devant, mais quand même c'est une initiative qui reste du Sahel. C'est quand même les chefs d'État et de gouvernement du Sahel qui ont bien voulu mettre cette institution en place. Oui, elle est aujourd'hui impulsée par la France qui se bat aussi pour l'effectivité du fonctionnement de ce G5 Sahel. Mais quand même, acceptons ou accordons-nous quand même pour dire que c'est quand même une émanation des pays du Sahel. Mais encore, ça peut être une institution de trop, étant donné que quand même nous sommes dans l'espace CEDEAO et la CEDEAO a la meilleure architecture de paix et de sécurité. Bon, en cela, on peut considérer que le G5 Sahel, c'est aussi peut-être une institution de plus, mais encore, on verra effectivement dans la mise en œuvre, en tout cas, du fonctionnement, peut-être on va parvenir. Mais ce qui est plus important aussi, de mon point de vue, le G5 Sahel a la particularité. À chaque fois, quand vous voyez, il y a des rencontres, par exemple, du G5 Sahel, vous n'avez jamais vu l'absence d'un du président. Les cinq présidents, même si c'est quand même, en termes protocolaires, c'est très joli de voir qu'ils sont toujours là, ils sont toujours présents.
G5 Sahel et on a tous les cinq chefs d'État.
Voilà, les chefs, tu n'as jamais vu. En tout cas, moi, jusque-là, je n'ai pas vu où un chef d'État s'est absenté, il s'est fait remplacer par son premier ministre. Contrairement au fonctionnement de l'Union africaine, quand tu vois souvent certains chefs d'État eux-mêmes, ils bourdent. Donc, en tout cas, du point de vue, en tout cas, rencontre, je vois que c'est très important, même si quand même, souvent, c'est les mêmes communiqués qui sont aussi peut-être repris et autres. Nous allons revenir certainement dans le débat
bien sûr.
Au cours de cet échange.
Bien sûr. Alors, à terme, les effectifs de la force du G5 doivent atteindre 5000 hommes. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, l'on est à peu près à combien de pourcents des effectifs? Ibrahim Maïga, de l'ISS.
Oui, alors sur la base des chiffres avancés par le commandant de la force conjointe lui-même, on serait à un taux de mise à disposition des troupes qui avoisinerait les 80%. Vous avez près de 4000 hommes qui sont déjà mobilisés dans le cadre de la force conjointe. Évidemment, la force conjointe, l'opérationnalisation a débuté depuis juillet 2017. Ce n'est pas en 2018 que cela a commencé. Depuis juillet 2017, on a commencé à parler de l'opérationnalisation, de la mise en place de cette force conjointe. Je pense que c'est important qu'on s'arrête une minute là-dessus. La force conjointe, puisque c'est d'elle dont on parle depuis un moment, elle fonctionne sous la base de fuseaux. Vous avez trois fuseaux. Le fuseau S, donc qui correspond un peu à la frontière, à la région frontalière entre le Tchad et le Niger. Le fuseau Ouest correspond à cette frontière entre le Mali et la Mauritanie. Et le fuseau Centre, donc qu'on appelle un peu communément la région des trois frontières, donc qui réunit à la fois le Mali, le Niger et le Burkina. Donc vous avez trois fuseaux. Et dans chacun de ces fuseaux, vous avez un PC tactique. Le PC tactique pour le fuseau Centre est basé à Niamey. Le fuseau tactique pour... le fuseau est basé pour l'instant à N'Djamena en attendant d'être transféré vers où et enfin le fuseau ouest, donc la Mauritanie et le Mali, dont le fuseau est en cours de transfert au niveau de la localité en question, Béké, mais qui se trouve en ce moment à Nouakchott également. Donc vous avez ces trois fuseaux-là. Et au-dessus, si je peux m'exprimer ainsi, de ces trois fuseaux, vous avez le quartier général de la force conjointe, qui était donc basé à Sévaré, dans le centre du Mali, mais après l'attentat que le QG a subi, a décidé de se replier à Bamako. Et donc, vous avez ce commandement-là, donc la force conjointe qui est basée à Bamako. Juste pour terminer là-dessus, de préciser le mandat de la force conjointe. Parce que nous, on a parlé du G5 Sahel et de ses deux piliers. Maintenant, si on rentre dans les détails, la force conjointe, son mandat, comme Dr. Tico l'a rappelé, c'est de combattre l'insécurité, mais de façon plus précise, c'est de combattre les groupes terroristes, mais aussi les groupes criminels donc qui pullulent dans la région. Elle a aussi comme mandat, cette force conjointe, de contribuer à la restauration de l'autorité de l'État et au retour des personnes déplacées. Si vous regardez le concept d'opération de la force conjointe, vous verrez que la force conjointe a un mandat assez, des objectifs assez ambitieux, mais qui sont graduels.
Donc, graduel.
L'objectif principal à ce stade, c'est véritablement de combattre les groupes criminels et les groupes armés terroristes, comme on les appelle.
Alors,
et puis, ne serait-ce que l'impact et l'influence de ces groupes dans ce pays.
Alors, Ibrahim Maïga, ces trois fuseaux dont vous avez parlé, c'est des forces sur place pour pouvoir intervenir en cas de besoin à proximité.
Alors, Dr. Dico l'a rappelé, le G5 Sahel lui-même a été mis en place depuis février 2014. Mais l'opérationnalisation de cette force conjointe a eu lieu en juillet 2017, plus de trois ans. Or, la force conjointe elle-même a été annoncée en N'Djamena depuis au moins 2015. Il s'est écoulé deux années au cours desquelles les autorités politiques et militaires ont beaucoup débattu sur le format de la force conjointe. Quel type de format serait le mieux adapté à cette force pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle ne soit pas une force supplémentaire, mais qu'elle soit dans la complémentarité des autres forces présentes sur le terrain. On parle bien entendu de la force française Barkhane, mais aussi de la MINUSMA au Mali. Et donc il a été décidé de se focaliser sur les espaces frontaliers qui constituent quand même un problème en termes d'insécurité dans cet espace. Et aussi dans une perspective d'approche graduelle, de commencer avec les frontières et éventuellement, dans quelques années, quand la force sera totalement opérationnelle, on a envie de dire autonome, donc ne dépendant pas uniquement des financements extérieurs, je pense qu'on va revenir sur la
question. Bien, oui, effectivement.
Et quand elle sera en pleine capacité, elle intervenir à des points précis. Pour l'instant, on est sur l'option 1 qui consiste donc à travailler davantage sur les espaces frontaliers qui sont exploités aussi par ces groupes criminels et ces groupes terroristes.
Bien.
Donc, si vous voulez, dans chaque fuseau, vous avez donc deux bataillons.
Et docteur Dikwa Abdourahmane, quelle appréciation vous faites de cette force, le nombre et ainsi que la répartition?
Merci bien. Je pense que monsieur Brahim a donné pratiquement toutes les informations techniques qui nous permettent de lire un peu. J'allais dire le système aujourd'hui mis en place par cette force-là. Mais ce qu'il faudrait peut-être notifier, c'est que c'est une force déjà dont l'appellation a été, j'allais dire, transformée. Parce que au départ, avec la conception qu'on avait de cette force-là avait été assez rétrograde et n'a pas pu, en réalité, être rendue opérationnelle. Donc maintenant, nous parlons d'une force militaire conjointe transfrontalière qui est en principe composée de 5 bataillons, de 750 hommes, soit un bataillon par pays. Ce nombre-là, normalement, devrait être porté progressivement à 10 000 hommes. J'allais simplement notifier le nombre aujourd'hui des hommes qui opèrent dans la zone et qui opèrent sous le commandement du G5 Sahel, traduit un peu toute l'émergence ou toute la nécessité aujourd'hui de prendre en charge la question de la sécurité. Ça traduit aussi l'ampleur que le phénomène est en train de prendre dans l'espace sahélien. Donc, à ce titre, il faut rappeler que la première opération militaire a été lancée le 1er novembre 2017, appelée opération baptisée Haubi, avec 350 soldats burkinabés, 200 soldats maliens, 200 nigériens.
Ibrahim Maïga, vous êtes avec nous?
Oui.
Oui, alors où est-ce que nous en sommes aujourd'hui pour ce qui est de l'opérationnalisation de cette force? Quelles sont les informations dont vous disposez en tout cas et sur les actions réelles qu'on peut mettre à l'acte de la force du G5 Sahel?
La force conjointe a mené quand même plusieurs opérations depuis 2017, comme cela a été rappelé. Depuis novembre 2017, donc le lancement de sa première opération à Obi, ensuite Banyali, toutes dans le plus au centre. Avant de mener d'autres comme au dessous dans le fuseau S, elle est à la tête d'aujourd'hui à 9 opérations. Si on prend en compte les dernières qui se sont déroulées pour en janvier-février. Mais évidemment, si vous prenez un bilan en termes comptables, donc combien de terroristes ou combien de groupes la force conjointe a pu mettre à l'écart pour neutraliser, mais évidemment, vous restez quand même sur votre fin parce qu'il n'y a pas ce type de bilan-là. Les premières opérations ont surtout servi à rôder un peu la machine parce que ce sont des forces qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Donc on en dit, même si c'est des pays limitrophes, les États sont très jaloux de leur souveraineté. Donc il n'y avait pas cette collaboration, cette facilité.
Donc c'était une première expérience pour voir comment les gens peuvent travailler ensemble.
Exactement. Donc il y a eu un effort aussi, je pense qu'il faut le souligner. Effectivement, Dr Dico parlait de rappeler la genèse un peu contestée, ou en tout cas controversée de ce G5, de cette organisation, même si tous ne partagent pas la lecture d'une organisation créée par la France, peut-être soutenue, promue par la France, mais pas créée à proprement parler.
Quand vous dites qu'on reste sur notre soif s'il s'agit de donner des chiffres en termes de nombre de terroristes mis à l'écart, est-ce que c'est lié au manque ou bien il s'agit d'insuffisance d'action ou de manque d'effet de l'action?
Alors c'est lié principalement à deux éléments. Les deux éléments sont liés d'ailleurs. L'élément principal est lié au temps que passe la force conjointe sur le terrain. Si vous prenez bien ces opérations-là, ce sont des opérations de courte durée qui se déroulent entre 2 et 3 semaines maximum. Et qui va, donc au cours de ces opérations, la force conjointe ou les bataillons vont à la recherche de groupes armés terroristes ou de groupes criminels qui circulent dans la zone. Sauf que vous faites face à une menace asymétrique, donc ce n'est pas une armée conventionnelle qui est devant vous, qui est stationnée, qui est arrêtée, qui vous attend. Une des caractéristiques importantes de la menace asymétrique, justement, c'est cette facilité à se fondre dans la masse.
Oui,
à se replier quand le combat n'est pas à son avantage et à porter des coups durs à l'adversaire. C'est ça aussi le caractère, la dimension importante dans cette bataille. Donc quand vous avez des opérations de 2 semaines, 3 semaines, vous pouvez bien entendu ratisser large ratisser la frontière sans nécessairement être en contact direct. Il y a des arguments qui sont mis de l'avant, c'est-à-dire que ces opérations visent aussi à ne pas laisser
le champ libre pour la circulation.
Exactement, le champ libre à des groupes terroristes.
Ibrahim Maïga, de l'Institut d'études de sécurité ISS, quelles sont à vos yeux les principales limites de la force conjointe du G5 Sahel?
Je pense qu'il faudrait peut-être parler en termes de défis auxquels la force conjointe est confrontée. Parce que c'est une force en construction. Donc, avec le temps, avec la volonté, avec peut-être aussi une prise en compte des différentes connaissances sur la problématique, les choses pourraient changer dans le bon sens. Donc, l'un des premiers défis auxquels la force conjointe est confrontée, c'est ce que je rappelais tout à l'heure, le caractère asymétrique de la menace. Donc, vous ne pouvez pas vous attendre à des résultats tangibles tout de suite. Il faut inscrire ce combat-là dans la durée. Bien entendu, des moyens, mais il faut aussi rester mobilisé, rester attentif. Donc ça, c'est le premier défi auquel la menace est confrontée. Le deuxième défi, bien entendu, c'est la question du financement, qui n'est toujours pas résolu. Il y a encore quelques jours, les chefs d'État donc, du G5 Sahel ont lancé un nouvel appel, où ont réitéré leur appel à placer la force conjointe sous mandat onusien, donc sous le chapitre 7 des Nations Unies, pour justement bénéficier d'un financement pérenne.
Un financement qui soit durable.
Un financement durable qui s'inscrit donc dans la durée. Et donc je pense que cette question malheureusement va continuer à rester un défi important auquel la force devra faire face, un défi avec lequel la force devra composer au cours des prochains mois, voire des prochaines années, si les choses ne sont pas appréhender avec beaucoup plus de rigueur.
Il y a un an, 414 millions d'euros ont été promis lors d'une conférence internationale de donateurs, mais cette somme tarde à se matérialiser.
Vous savez, il y a toujours un hiatus entre les promesses et les décaissements. Effectivement, il y a eu des promesses lors de la table ronde à Bruxelles. Ensuite, il y a eu des promesses également lors de la conférence de Bruxelles en février 2018. Des promesses aussi ont été faites lors du sommet du G5 Sahel pour son pilier développement. Il faut comprendre qu'il y a parfois un hiatus entre les promesses et les décaissements. Donc il faut rester aussi attentif à ces éléments. Ce n'est pas parce que les États ont promis tel ou tel montant que ces montants
seront effectivement
exactement dans les caisses des États ou dans les caisses du G5 Sahel.
Alors,
donc, le financement va continuer à rester
un défi, un des grands défis. Oui.
Voilà, une épine dans le pied de la force conjointe. Bien évidemment, la force conjointe elle-même, en termes de zone géographique ou de zone d'opération, bien entendu, Dr. Dico rappelait à juste titre la menace qui vient de la Libye. Je pense que le fuseau est regarde de ce côté-ci, mais il y a aussi la menace qui continue de venir de l'Algérie.
Bien.
Et effectivement, cette appréhension de l'Algérie vis-à-vis du G5 Sahel, vis-à-vis de la force conjointe, peut porter préjudice à l'efficacité de la force conjointe dans le long terme. Mmh. Parce que quand vous regardez la carte des menaces, que vous la comparez au déploiement ou aux zones de déploiement des bataillons, ça donne le sentiment qu'il y a des secteurs ou en tout cas des espaces qui sont
laissés vides.
Qui ne bénéficient pas de la même attention. Exactement, et qui pourraient continuer à être le ventre mou en fait, de cette lutte ou de ce combat-là.
Bien, nous allons à Zander. Docteur Dico, vous nous suivez?
Oui.
Oui, et le financement du G5 Sahel, on va dire, de sa force et un peu des projets reste un grand défi. Par rapport à l'opérationnalisation de la force, on a vu une certaine réticence d'autres puissances, notamment les États-Unis. Est-ce qu'on sait pourquoi des puissances comme telles ont cette réticence à accompagner avec ouverture une force comme le G5 Sahel?
Bon, vous savez déjà, en juin 2018, la France a déjà demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies d'approuver le déploiement de la force du G5 Sahel et a eu le soutien de la Russie et de la Chine. Mais malheureusement, les États-Unis et la Grande-Bretagne étaient plus ou moins, j'allais dire, pessimistes par rapport à la question.
Pourquoi?
Trump avait avancé et le gouvernement Trump a clairement affiché une position qui se résume en quoi? C'est-à-dire que voilà, le gouvernement américain cherche toujours à diminuer la contribution américaine au budget des opérations militaires, des opérations de maintien de la paix, et pour des raisons des politiques intérieures des États-Unis. Donc, en réalité, nous avons, comme vous l'avez notifié, et comme les autres camarades, collègues ont notifié, le premier problème aujourd'hui, qui peut être, j'allais dire, érigé comme étant une limite, ou du moins un échec, j'allais dire, parce qu'on n'est pas à ce niveau, il faut bien le préciser, c'est qu'il y a un véritable problème au niveau du financement. D'abord, le financement du G5 Sahel. 415 millions d'euros. Des engagements ont été pris. L'Union européenne s'est engagée à verser 50 millions. Chaque pays africain, chaque pays du G5 Sahel devrait verser 10 millions. Les États-Unis, sous l'impulsion de la France et la médiation de la France, avaient accepté tout de même une aide budgétaire, n'est-ce pas, de 100 millions. Et le Royaume d'Arabie Saoudite a déjà apporté une contribution de 100 millions. Et
la contribution, elle a apporté ou elle a annoncé?
Non, elle a apporté.
Bien.
Elle a apporté une contribution de 100 millions. Et les Émirats Arabes Unis ont donné une contribution de 30 millions de dollars. Sur les 413 millions d'euros promis en 2018, il reste encore 199 millions qui n'ont pas encore été versés. Donc, potentiellement, le dispositif financier en termes de ressources, c'est-à-dire les ressources financières que nous avons, ne permettent pas au G5 Sahel d'être opérationnel. Parce qu'il faut avoir les moyens, il faut avoir les matériels, il faut payer les soldats, il faut payer... Il y a beaucoup de choses qu'on devrait faire. Donc, tous ces éléments d'information prouvent d'abord que la première source qui explique la lenteur des opérations menées par le G5 Sahel, c'est d'abord le financement.
Le financement.
Le deuxième point sur lequel il faudrait insister, c'est une question d'intérêts régionaux qui bloquent en réalité le développement de cette force-là.
Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ça veut dire quoi? Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, il y a deux pays qui sont pratiquement incontournables dans toutes les formes d'intervention militaire ou dans toutes les formes de sécurisation, n'est-ce pas, de notre espace sahélien.
Lesquels?
L'Algérie et le Maroc. Oui, je le sais, on le sait très bien que l'Algérie a une position claire. L'Algérie a refusé d'accompagner cette force et l'Algérie manifeste toujours sa volonté de voir les forces étrangères installées dans le Sahel partir. Donc du coup, il y a un véritable problème qui est là.
Comment comprendre le fait que l'Algérie ne veuille pas de cette force conjointe du G5 et ne veuille pas aussi la présence des puissances étrangères?
C'est lié à des situations géopolitiques qui ont une épaisseur historique de centaines d'années.
Est-ce que ce n'est pas parce que, peut-être dès le départ, l'Algérie n'a pas été associée dans ce projet commun?
C'est bien possible. Mais tout ce qu'on fait comme obstacle aujourd'hui, qui peut être présenté comme étant un obstacle rédhibitoire à une mobilisation effective, c'est le refus de l'Algérie d'accompagner cette force-là, les forces étrangères. Donc, le deuxième pays, c'est le Maroc. Le Maroc a toujours joué un double langage. La face pire qui montre l'engagement du Maroc dans la lutte contre le terrorisme. Et la deuxième phase, c'est quoi? C'est l'implication du Maroc dans le
terrorisme. On va dire des éléments du Maroc.
Absolument.
Du Maroc, le pays.
Ça veut dire que, absolument, il y a des lobbies aujourd'hui qui contrôlent l'État. Et c'est une raison assez effarante. Le développement de l'économie criminelle, en réalité, accompagne toujours le développement du terrorisme et de la criminalité. Troisième obstacle, c'est lié à un certain nombre de pays comme le Tchad. Le Tchad aujourd'hui qui conditionne sa participation, j'allais dire réelle, au G5 Sahel, par l'apport financier que les pays occidentaux devraient appeler au Tchad pour payer ses fonctionnaires.
Oui. Nous revenons au studio, Kakatuda.
Écoutez, par rapport à cette question du G5 Sahel,
le problème du financement et la résistance de certaines puissances.
Oui, moi je ne reviens pas, je fais économie de ce que Dr. Maïga ont dit. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas refuser de mettre votre main dans vos poches et attendre plus de 400 millions de quelqu'un pour s'occuper. Ça, ce n'est pas possible. Donc il faut véritablement que d'un point de vue politique, que nos chefs d'État et de gouvernement qui ont décidé de créer ce si réellement c'est quelque chose qui vient de nous, parce que le docteur il y a énormément de personnes qui pensent que ce n'est pas une appropriation, ce n'est pas quelque chose qui est venu des États. Et c'est la preuve, voilà.
Et il faut que les intéressés participent d'abord.
Même les 10 millions, j'ai rappelé tout à l'heure qu'aujourd'hui, je ne suis pas certain. 10 millions
d'euros, c'est
je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que nos pays là ont débloqué, alors que vous attendez beaucoup d'argent ailleurs. Même sur le fonctionnement du secrétariat permanent du G5 Sahel, je ne suis pas certain que si tous les États sont en train d'exécuter vraiment leur engagement consistant à donner 400 millions par an pour le fonctionnement de cette force. J'ai fini en disant que, voyez-vous encore, là on est dans le cadre du financement, banque de financement et autres. Le jour où on va avoir de financement encore, d'autres problèmes vont se poser. Vous savez, nous sommes dans un espace sahélien ou dans l'Afrique, on pense que la question sécuritaire, ça rentre du tabou. Oui, stoppez, vous n'avez pas droit de regard, vous n'avez pas droit de critiquer, les gens peuvent détourner de l'argent, les gens peuvent utiliser l'argent sans aucun résultat et on va nous empêcher même de critiquer parce qu'il s'agit de la sécurité. Donc là également, il faut qu'on travaille et je suis un peu content d'un point de vue institutionnel, la création du comité interparlementaire du G5 Sahel dont le Niger actuellement assure la présidence. J'espère qu'au niveau parlementaire de ces pays, qu'ils puissent prendre leur courage à main pour les interpeller, pour que de plus en plus on amène le secrétariat permanent à faire le bilan. Aujourd'hui, on n'a même pas le... Il y a eu beaucoup d'opérations, on n'a même pas de bilan. Il faut qu'ils les convoquent, il faut qu'il y ait un mécanisme où ils doivent venir rendre compte parce que c'est de l'argent public, de l'argent qui vient de l'extérieur, qui ont des exigences, qui ont...
Et cette réduction de comptes peut encourager la participation de...
Absolument. Au-delà des réductions de comptes que les parlementaires vont demander, nous-mêmes, en tant que citoyens, il s'agit de notre sécurité, nous allons nous organiser pour exiger qu'il y ait de la transparence. Alors, dans ce qui va se passer.
Cette question de résistance de l'Algérie, par exemple, du Maroc...
Mais écoutez, même pas l'Algérie seulement. L'Algérie, c'est, le docteur Larouf, c'est pour des trucs géopolitiques très clairs. De tout temps, la France et l'Algérie, ils ont des difficultés. Et tant que la France est là dans le Nord Mali, tant que la France est dans ce système, tant que c'est la France qui est un peu, en tout cas,
l'Algérie ne participera pas.
Ils ne vont jamais participer. Et même sur la question, par exemple, de placer la force conjointe du G5 Sahel sous le chapitre 7 du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est que l'argument que les États-Unis avancent, c'est de dire que oui, ben, c'est une force essentiellement composée des pays du Sahel. Il aurait fallu que ça soit une opération de maintien des paix, qu'il y ait d'autres forces extérieures. C'est à ce prix seulement que nous allons apporter notre... Encore que c'est dilatoire, parce qu'on a vu des forces africaines au niveau de l'Union africaine faire des opérations, c'est des forces purement africaines qui ont fait des trucs. Donc c'est toujours, il y a cette réticence et il faut le comprendre, c'est des intérêts qui sont en jeu et c'est vraiment des stratégies qui les développent. Encore une fois, il faut que nous prenions nous-mêmes conscience pour que cela puisse avancer. Sinon, on peut avoir tout cet argent, en 2 ans, 3 ans, on ne souhaite pas voir l'insécurité s'agrandir davantage plutôt que de minimiser cette question.
Bien, nous allons donner la parole à Ibrahim Maïga pour sa dernière contribution. On va le remercier. Vous êtes là avec nous, Ibrahim Maïga?
Oui, je suis là.
Voilà. Est-ce que les relations entre le G5 Sahel et les populations locales sont saines et faites de collaboration? Sinon, pourquoi? On a vu en janvier passé, s'est tenue à Niamey la 2e conférence pour le renforcement justement des liens entre la sécurité, la justice et le développement. Des recommandations ont même été faites dans le sens de mettre en place des plateformes d'échange avec les populations du Sahel et exhorter les États à mieux communiquer sur la force du G5 Sahel. Vous y avez même participé.
Effectivement, c'est un défi important auquel la force conjointe est confrontée. Mais un défi qui est lié non pas uniquement à la force conjointe, ni à son mandat, ni à ses pratiques, mais qui puise ses racines ou qui trouve ses racines dans les relations, disons, difficiles entre les forces de défense et de sécurité nationale et les populations. Donc la force conjointe vient dans un environnement en réalité troublé, déjà par... cette défiance vis-à-vis des forces de défense et de sécurité, ou cette méfiance vis-à-vis des forces de défense et de sécurité. Donc je crois qu'il y a un important travail à faire, un important des efforts supplémentaires à déployer pour améliorer justement la relation entre la force conjointe, mais plus largement entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Vous rappeliez effectivement que des recommandations ont été formulées, entre autres la mise en place de cette plateforme d'échange, mais aussi la judiciarisation des affaires liées ou non au terrorisme, c'est-à-dire quand la force conjointe ou quand les forces de défense et de sécurité appréhendent un individu, un suspect, il faudrait que ce suspect comparaisse devant la justice dans le respect de l'état de droit et que cela ne se passe pas dans des conditions extrajudiciaires. Donc il est extrêmement important de prendre en compte toutes les recommandations sur lesquels je ne reviendrai pas. Et je pense qu'au-delà de la confiance et de l'appel à améliorer la confiance entre les populations et la force conjointe, qui doit se traduire par une meilleure communication. Kaka a rappelé le fait qu'effectivement, on a l'impression que les questions de sécurité et de défense, mais aussi surtout de sécurité, sont tabous dans nos pays. Or, il est de plus en plus important que la société civile, que les centres de recherche, que les instituts de recherche, que les enseignants-chercheurs, que les populations discutent de ces questions-là.
Et qu'ils puissent avoir accès à un certain nombre d'informations.
d'information. Et je pense qu'au-delà de la communication, je pense que la communication est importante, mais au-delà de la communication, il y a aussi des actions concrètes à poser pour améliorer cette relation difficile entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'expliquer le mandat, mais aussi dans la traduction justement de ce mandat d'être vigilant et de respecter les droits des populations. Que les populations sentent qu'elles sont respectées, que les forces de défense et de sécurité sont là pour les protéger. C'est ça le mandat principal de la force conjointe, c'est la sécurisation et la pacification du Sahel.
Bien,
je peux juste terminer sur un dernier mot.
Oui.
On a rappelé, je pense, les défis classiques de la force conjointe.
Oui.
L'un des défis qui n'a pas été mentionné, qui rejoint un peu ce qu'on vient de dire à l'instant, et qui, de mon point de vue, accentue donc la nécessité d'une meilleure collaboration entre les FDS et la population, c'est le fait que les menaces que les FDS sont censés combattre, donc les groupes, le terrorisme ou la criminalité organisée transnationale, ben, les populations elles-mêmes, parfois, pas toutes, hein, ce n'est pas discréditer ou en tout cas jeter le discrédit sur toutes les ou accuser toutes les communautés ou les populations, mais il se trouve qu'il y a aussi des gens de ces communautés-là dans les espaces frontaliers qui sont impliqués soit dans les trafics, soit aux côtés des groupes extrémistes. Donc il est important aussi de le comprendre, de comprendre les raisons pour lesquelles les gens vont vers ces groupes ou préfèrent travailler avec ces groupes plutôt qu'avec les États ou avec les forces de défense et de sécurité. Et penser aussi à traiter ces causes-là, parce que il ne s'agit pas juste d'envoyer une force militaire pour mener des actions militaires sur le terrain, mais il est aussi important de traiter les causes profondes de cette insécurité-là. Et c'est pour cela que je crois que le pilier développement a toute sa pertinence. Oui. Au-delà des questions de développement, bien entendu, les questions de gouvernance sont essentielles pour, à terme, pacifier et inscrire la force conjointe dans un cadre plus large, dans un cadre politique.
Sur quoi le G5 Sahel doit miser pour relever le défi de la sécurité et du développement dans ses pays membres?
Elle a déjà donc son PIB, sa force conjointe. Mais bien entendu, ces deux piliers ne suffisent pas. On nous dit que le G5 dit que le pilier développement va aussi toucher des questions de gouvernance, mais il est essentiel de travailler sur les causes profondes de l'insécurité, qui sont peu ou prou liées aux questions quand même de gouvernance. Donc il est important de mettre l'accent dans ces espaces-là, en particulier sur les questions de gouvernance, sur le rôle de l'État. Quelle est l'utilité de l'État dans ces espaces-là? Est-ce qu'on a un État protecteur? Est-ce qu'on a un État à l'écoute des populations? C'est dans ce sens-là qu'il faut travailler et accentuer les efforts.
Merci beaucoup. Merci Ibrahim Maïga d'avoir été de notre durant ces minutes d'échange.
Merci.
Nous revenons. Docteur Diko Abdraman, vous êtes avec nous? Voilà, pour terminer, quelles sont aujourd'hui, selon vous, la meilleure manière pour le G5 Sahel de travailler avec les populations afin de pouvoir relever ces certains défis?
Donc, je remercie infiniment M. Ibrahim Maïga pour avoir apporté une contribution énorme sur aujourd'hui. Les actions prioritaires que nos États doivent engager et le G5 Sahel doit engager aussi pour pouvoir corriger le déficit communicationnel qui existe entre la population civile et les forces de défense et de sécurité appelées à évoluer ou à planifier les actions de sécurité. Donc, il y a une question substantielle qui se pose dans nos États. Nous passons toujours à côté de la question essentielle. Nous passons toujours à côté de l'action prioritaire. Nous croyons toujours au populisme et aux actions plus ou moins, n'est-ce pas, d'éclat. Et qu'est-ce que j'entends par action d'éclat? C'est le fait d'organiser, de mobiliser une force autour d'un idéal sécuritaire pour, soi-disant, copter des ressources et lutter contre un phénomène social qui est là, un phénomène à la violence.
Dans le cadre d'espèce, quelle est l'action prioritaire
dans le cadre d'espèce, il n'y a pas une autre alternative plus efficace que celle qui nous renvoie à la gouvernance politique, celle qui nous envoie à la prise en charge réelle des réels, n'est-ce pas, problèmes existentiels des populations. Lorsque les gens arriveront à satisfaire leurs besoins, lorsque les gens auront accès aux soins de santé, lorsque les gens auront accès à l'emploi, moi je pense que la lutte contre le terrorisme va être beaucoup plus efficace. Mais lorsque déjà on laisse les gens dans une précarité plus ou moins institutionnelle, ils deviennent des poids faciles et ils collaborent même avec les organisations extrémistes. Je suis présentement sur des cas particuliers et je suis en train de faire des recherches dans la région de Diffa et je découvre de manière effarante la légèreté avec laquelle du moins les gens abordent la question de la sécurité ou abordent la question liée à leur facilité d'enrôlement, n'est-ce pas, dans les organisations extrémistes. Comme les dames l'a dit, il faut revenir sur la gouvernance politique, il faut revenir sur la justice sociale, il faut revenir sur le système de la reproduction, n'est-ce pas, des liens sociaux.
Kakatuda Momangoni, on a vu quand même que dans le cadre du dispositif du G5 Sahel, il y a ce programme d'investissement prioritaire PIP 2019-2021 qui justement, le rôle est d'allier sécurité et développement. On a entendu lors d'une rencontre de bailleurs au niveau de Nouakchott à Mauritanie, ça c'était en décembre 2018, des sommes recherchées, 2 milliards d'euros en tout cas ont été annoncées pour le financement de ce programme d'investissement prioritaire. Est-ce que, justement, si jamais on arrivait à mettre en place, à avoir ce financement disponible, ces problèmes de gouvernance, ces problèmes de collaboration, ces problèmes de développement, de résolution de problèmes de développement, de santé, peuvent être solutionnés?
Mais encore une fois, voyez-vous comment on n'est pas très conséquent dans les États africains, dans le Sahel. Comment 50 ans, 60 ans après notre indépendance, même l'eau potable pour boire pour les populations, il faut encore attendre quelque part. Pour que les citoyens puissent aller à l'école, il faut également attendre. Pour que les gens aient aux premiers soins de santé, il faut également attendre. Mais ça veut dire que vraiment nous ne sommes pas conséquents. Et c'est pourquoi je pense que le programme d'investissement prioritaire, oui, on met beaucoup l'accent un peu sur le volet hydraulique rural, hydraulique villageoise ou hydraulique urbaine. On fait des programmes pour faciliter un peu, par exemple, l'accès à l'eau des populations les plus vulnérables. Souvent, chez nous, encore une fois, même l'eau, l'accès à l'eau, c'est aussi une source d'insécurité, n'est-ce pas? Mais que nos chefs d'État et de gouvernement comprennent une fois, encore une fois, que les gens s'engagent véritablement sur ces questions. Ce n'est pas seulement des rendez-vous semestriels, annuels, des conseils des ministres, des collèges, des rencontres des chefs d'État-major ou des rencontres des présidents qui vont se retrouver et faire la messe pendant une journée, deux jours. Et ça, il faut véritablement qu'ils s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour que qu'enfin, au moins, cet espace puisse vivre dans la paix et la sécurité. C'est uniquement en vivant dans la paix et la sécurité qu'on peut prétendre à un quelconque développement.
Merci à vous d'avoir bien voulu participer à cette émission du forum sur le G5 Sahel. Le G5 Sahel, au-delà de l'aspect sécuritaire, c'est une organisation institutionnelle qui a deux bras, notamment la sécurité et l'aspect développement. À ce jour, la force conjointe est à environ 80% de ses effectifs, soit 4000 hommes sur les 5000 hommes prévus, et a à son actif 9 opérations militaires depuis 2017. L'un des défis majeurs du G5 Sahel, c'est notamment la question du financement qui peine à se concrétiser malgré les promesses. Par ailleurs, son élan est ralenti par la réticence de certaines puissances à l'accompagner, telles que les États-Unis. Autre défi pour le G5 Sahel, c'est de pouvoir effectivement gagner la confiance et la collaboration avec les populations locales. Certains de nos invités ont souligné la nécessité d'améliorer la gouvernance des États et de promouvoir la justice sociale. Nous étions en compagnie de Kakatuda Momangoni, acteur de la société civile, membre d'Alternative Espace Citoyen, Ibrahim Maïga, chercheur à l'Institut d'études et de sécurité à Bamako, au Mali, et Dr Diko Abdourahman, enseignant-chercheur à l'Université des Indes. À la présentation à la Sankouzi, bonsoir.